Semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 16 mai, 9e édition spéciale d'une semaine d'actualité depuis le début du confinement mi-mars et premier numéro sous l'ère du déconfinement progressif. Déconfinement à l'échelle de la planète, nous allons le constater au fil de nos escales. Nous sommes cette fois-ci en compagnie d'un des grands spécialistes des relations internationales, Bertrand Badie, qui place le Sud au cœur du grand jeu mondial. Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, www.rfi.fr, sur votre plateforme de recherche préférée. Vous pouvez le podcaster et vous y abonner.
RFI.
Et avant de vous écouter, Bertrand Badie, partons pour les États-Unis, dans l'Oklahoma précisément, où le virus a fait renaître les drive-in, le cinéma en plein air et en voiture. Reportage d'Éric Desalves.
Les premières voitures ont attendu 3 heures pour être les mieux placées devant l'immense écran de cinéma en plein air. Avec le déconfinement, le drive-in Winchester rouvre tout juste ses portes à l'affiche ce soir dessin animé. Le coffre du SUV de Jackie est grand ouvert. À l'intérieur, c'est l'excitation générale. Après un mois et demi de confinement, ses 4 filles ne tiennent plus en place.
C'est notre première sortie, la toute première. Ça fait du bien d'être dehors, même si c'est avec un masque. Donc oui, je suis contente et les enfants aussi.
Voiture d'à côté, Val et ses petits-enfants ont déplié les fauteuils, heureux eux aussi d'être enfin à l'air libre, avec tout de même une légère appréhension.
On se sent plus en sécurité parce qu'on est à l'extérieur, mais un peu nerveux en même temps, parce qu'on ne sait pas où est le virus, il est invisible.
Mais en pleine pandémie, ce drive-in dernier d'Oklahoma City reste l'une des seules sorties compatibles avec la distanciation sociale. Du coup, l'affluence est record, de quoi relancer ces institutions au charme désuet des années 70, selon Sophia, la fille du propriétaire.
C'est vraiment un truc nostalgique et le coronavirus va renforcer son comeback. La preuve, hier soir, on a dû refouler énormément de monde.
En Oklahoma, le déconfinement a commencé depuis une semaine, mais la plupart des cinémas ne prévoient pas de réouverture avant cet été, au mieux.
Bonjour Bertrand Badie.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver dans cette émission. Dois-je rappeler que vous êtes professeur émérite des universités à l'Institut d'études politiques de Paris et enseignant-chercheur associé au Centre d'études et de recherches internationales. Vous êtes l'auteur de nombreux essais dont les plus récents sont « Quand le Sud réinvente le monde », un essai sur la puissance de la faiblesse en 2018 publié à La Découverte et « L'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale », livre publié cette fois aux éditions Odile Jacob l'année dernière, en 2019. Vous l'avez entendu, Bertrand, on réinvente en quelque sorte les pratiques du milieu du XXe siècle avec le drive-in.
Oui, et vous allez voir que nous allons assister de plus en plus à une sorte de redécouverte de tout un ensemble de pratiques, et puis au-delà de la redécouverte, probablement de l'invention. C'est-à-dire que nous sommes face à une technologie qui a pu faillir sur certains points, qui en tous les cas a suscité de la crainte, de la peur et de la menace. Et donc, il va falloir non pas rejeter la technologie, hein, ça ne sera pas le retour à l'état de nature, mais la réinventer. Et du coup, on est en pleine confusion parce qu'un procès assez schématique et assez simpliste a été adressé à la mondialisation dont on ne sait même pas très bien ce que c'est, mais en même temps, on va chercher les techniques qui sont à la base de la mondialisation. Le meilleur exemple, c'est le télétravail, par exemple. Le télétravail, c'est le résultat de cette explosion de la science, de la communication, des technologies nouvelles de communication. C'est donc quelque chose d'intimement lié à la mondialisation et à cette abolition du temps et de la distance qui est un peu en procès aujourd'hui, eh ben, c'est quand même ce télétravail, fruit de cette abolition de la distance et du temps, qui revient un peu comme compensation, comme rempart au risque lié au contact humain. Alors il ne faudrait pas non plus qu'on revienne en arrière, c'est-à-dire que la technologie remplace le contact humain. Moi, ça, personnellement, ça me fait peur. Et puis, il ne faudrait pas non plus qu'on réinvente des pratiques que l'on avait bannies parce qu'on les tenait pour anti-écologiques. Il y a un retour de la voiture. La voiture, c'est une sorte de cage qui nous protège de l'autre, donc qui est peut-être un moyen sanitairement sûr de se déplacer à l'extérieur. On le voit à propos de votre reportage sur le drive-in. On est en train de réintroduire les gobelets jetables sur lesquels on avait jeté un sort il y a encore très peu de temps. Le plastique a l'air de renaître. Effectivement, on est en pleine confusion et c'est une affaire à suivre.
Bertrand Badi, Marcel Le Gauchet, l'historien et philosophe qui était notre invité la semaine dernière, qualifiait la période que nous vivons en ce moment de période historique sur bien des plans. Est-ce que c'est aussi votre avis dans le domaine qui est le vôtre, c'est-à-dire le domaine des relations internationales ?
Oui, pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que du point de vue des relations internationales, on assiste à quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire une découverte par chacun des humains, j'irais presque les 7 milliards et demi d'êtres humains qui peuplent la planète, de ce qu'est la réalité des menaces mondiales. C'est la première fois dans l'histoire que tous les humains, en même temps et ensemble, vivent dans leur chair ce qui est devenu une des menaces, peut-être conjoncturellement, la menace la plus grave qui pèse sur l'humanité. D'habitude, c'est les dirigeants qui définissent la menace, qui la saisissent, la comprennent, peut-être quelquefois la manipulent d'ailleurs, et ensuite la servent à leur opinion publique. Là, l'opinion publique, les individus, sans qualification politique particulière, découvrent la chose en même temps pratiquement que les dirigeants qui, par parenthèse, n'avaient pas été très attentifs aux signaux qu'on leur avait adressés en cette direction. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, qui est profondément historique, sur peut-être une séquence plus courte, mais qui compte énormément, c'est que, enfin, on commence à comprendre ce qu'est véritablement la mondialisation. C'est-à-dire qu'on avait une vision caricaturale de la mondialisation jusqu'à maintenant. La mondialisation, c'est le marché, c'est le néolibéralisme, etc. Non, ça, c'est une incarnation de la mondialisation. La mondialisation, c'est fondamentalement, j'y faisais référence brièvement il y a un instant, l'abolition du temps et de la distance. Donc, c'est véritablement quelque chose qui est révolutionnaire, mais que l'on avait caché d'un certain point de vue. On voulait faire en sorte, jusqu'à il y a peu de temps, en tout cas jusqu'à cette crise, que la mondialisation reste dans le cadre de l'ancien monde, que les recettes de l'ancien monde continuent à fonctionner pour gérer ce nouveau monde. Ben, maintenant, on voit que c'est pas possible. Et pourvu que cette prise de conscience aille jusqu'au bout de sa logique et qu'elle ne retombe pas si, comme nous le souhaitons tous, cette crise venait à s'éteindre.
Une semaine d'actualité.
Bertrand Badi, partons pour la Chine, maintenant dans la ville de Wuhan, dans la province du Roubaix, là où l'épidémie a commencé et où l'heure est au test. Les autorités vont tester en effet les 11 millions d'habitants de la cité, car de nouveaux cas sont apparus. Correspondance mercredi de Stéphane Lagarde.
Une fois de plus, ce sont les comités de quartier qui sont sollicités. Dès 8h30 ce matin, les combinaisons blanches étaient de nouveau de sortie. Les prélèvements sont effectués derrière des tables dressées dans l'entrée de certaines résidences, notamment dans le district de Dongshuru, où ont été constatés les derniers cas d'infection. Les 11 millions d'habitants que compte la capitale du Roubaix sont théoriquement tous concernés par ces tests. Long Injia est professeur à l'université de Wuhan.
J'ai rempli le formulaire hier, on attend maintenant les tests. C'est important de contrôler l'épidémie, c'est bien aussi si ces tests permettent de retrouver une vie normale.
Pas facile de retrouver une vie normale après 11 semaines de strict confinement. Relancer l'activité, c'est aussi l'objectif des autorités qui cherchent à éliminer les risques de nouvelles flambées épidémiques liées aux porteurs sans symptômes. Une manière aussi de rassurer la population, Long Injia.
Nous sommes inquiets, c'est vrai, on a peur d'une deuxième vague épidémique à Wuhan. On ne peut jamais savoir avec le coronavirus. La situation reste compliquée. Nous devons toujours agir avec prudence.
Selon certains experts, entre 3 et 5 millions de personnes ont déjà été testées dans la capitale du Roubaix. Cette nouvelle campagne de dépistage doit durer 10 jours.
La Chine, qui est accusée de piratage par les États-Unis, par le FBI, Pékin tenterait d'en savoir plus sur les recherches américaines sur ce virus. À Washington, Anne Corpé nous a tout expliqué mercredi.
Les tentatives de la Chine pour cibler les secteurs de la santé et de la recherche représentent une menace grave pour la réponse de notre pays au Covid-19, affirme la police fédérale et l'Agence pour la cybersécurité. Le FBI dit enquêter sur des pirates informatiques affiliés à Pékin qui tenteraient de ravir les recherches effectuées sur un vaccin, mais aussi sur les traitements et les tests de dépistage de la maladie. La police appelle les laboratoires et les instituts universitaires concernés à prendre des mesures pour protéger leurs systèmes informatiques. Ces nouvelles accusations interviennent alors que Donald Trump accuse la Chine de ne pas avoir dit toute la vérité au sujet de la pandémie. Des sénateurs républicains souhaitent d'ailleurs que le président puisse imposer de nouvelles sanctions contre la Chine si Pékin n'est pas plus transparent. Ils exigent notamment de pouvoir visiter le laboratoire de Wuhan qu'ils soupçonnent d'être à l'origine de la pandémie.
À l'ère du déconfinement, Bertrand Badi, un pays a fait marche arrière cette semaine, c'est le Liban, confiné à nouveau 4 jours durant depuis mercredi à Beyrouth, Paul Khalife.
La fermeture sera totale et durera jusqu'au lundi 18 mai. Elle pourrait être prolongée si la courbe des contaminations n'est pas inversée. Les Libanais ne pourront sortir de chez eux qu'en cas d'extrême nécessité. Les restaurants, les cafés et d'autres activités économiques qui avaient de nouveau été autorisées dans le cadre du déconfinement seront suspendues. Les rassemblements dans les lieux publics et privés interdits. Les secteurs hospitaliers et sanitaires, alimentaires, agricoles et industriels sont exemptés de cette fermeture. L'armée et les forces de l'ordre sont chargées de faire respecter ces consignes et les contrevenants seront verbalisés ou traduits en justice. Ces mesures très strictes ont été décidées après l'enregistrement de 109 cas en 4 jours, alors que fin avril, aucune nouvelle contamination n'avait été détectée pendant plusieurs jours. L'augmentation des cas de contamination est due au non-respect de la distanciation sociale et des gestes barrières avec le début du déconfinement progressif. Pourtant, les Libanais avaient fait preuve d'une remarquable discipline pendant plus de 2 mois. Ces derniers jours, et malgré les mises en garde répétées des responsables, les restaurants et les cafés étaient bondés, les corniches du bord de mer et les places publiques étaient envahies par la foule. Les églises et les mosquées avaient de nouveau été autorisées à accueillir les fidèles à la fin de la semaine dernière.
Avant de vous retrouver, Bertrand Badi, partons maintenant en Afghanistan. Virus ou pas, les violences continuent dans ce pays avec la poursuite des attentats revendiqués par l'État islamique contre une maternité de Kaboul, notamment où travaille Médecins sans frontières. Correspondance de Sonia Ghezali.
La dernière attaque en date revendiquée par le groupe État islamique en Afghanistan remontait jusqu'à hier, au mois de mars. 25 personnes avaient été tuées dans l'attaque d'un temple hindou sikh de la capitale afghane. Sur le terrain, le groupe terroriste a pourtant perdu de son influence après avoir subi plusieurs revers dans son bastion, le Nangarhar. C'est dans cette province de l'est du pays, frontalière du Pakistan, que le groupe a fait son incursion fin 2014. Les attaques d'hier matin rappellent que l'Afghanistan est plongé dans une guerre aux multiples fronts. Les talibans n'ont de leur côté pas renoncé au combat malgré la signature d'un accord avec les Américains le 29 février dernier. Depuis, la violence a même augmenté. Le mois de mars a été particulièrement violent, avec en moyenne 50 attaques menées chaque jour contre les forces de sécurité afghanes. Les insurgés maintiennent la pression alors que les négociations intra-afghanes n'ont toujours pas commencé.
Vous écoutez RFI et singulièrement une semaine d'actualité. Nous sommes en compagnie de Bertrand Badi, grand spécialiste des relations internationales. Bertrand, avant de parler de la Chine et des États-Unis, je voudrais qu'on dise un mot, c'est trop court, de ce qui se passe en Afghanistan, car on a un peu oublié, certains ont un peu oublié que pendant le confinement et depuis quelques jours, en ce début de déconfinement, des combats ont continué dans certaines parties du monde.
Oui, voilà qui va venir en quelque sorte accentuer, aggraver l'échec de la politique américaine, je dirais non seulement en Afghanistan, mais dans la région. Finalement, les États-Unis ne parviennent pas à sortir de la région Grand Moyen-Orient par la grande porte. Le retrait d'Irak s'est traduit par une sorte d'échec dans la mesure où les États-Unis ont perdu la tutelle qu'ils essayaient d'exercer sur le régime irakien. Là, un accord a été signé le 29 février avec les talibans et on voit que dès le lendemain, pas seulement aujourd'hui, mais dès le mois de mars, cet accord était largement violé, dépassé, comme s'il n'était que formel, ce qui montre à quel point les vieilles puissances ont du mal à assurer la fin de conflits dans lesquels ils s'étaient imprudemment engagés. D'une façon générale, le malaise américain au Moyen-Orient est quand même quelque chose de très spectaculaire. Les États-Unis n'ont pratiquement plus de prise sur le conflit syrien, n'ont pratiquement pas d'alliés dans la place, malgré le très grand nombre d'acteurs qui s'entredéchirent dans ce malheureux pays. La situation dans le Golfe ne tourne pas spécialement en leur faveur. Une tension croissante oppose Washington à Riyad, notamment à travers la question pétrolière. Quand on pense que au début de ce siècle, le Greater Middle East, le Grand Moyen-Orient, devait être la figure de proue du regime change et de la présence américaine comme grande régulatrice du nouvel ordre international, on mesure l'importance, l'ampleur de la défaite. À mettre en perspective, pour rester dans l'actualité lourde, avec finalement la pâle figure que font les États-Unis face au coronavirus. Alors, bien entendu, ça n'a rien à voir, mais d'un certain point de vue, moi, ce qui me frappe, c'est une mise en échec de la puissance à nouveau. Regardez comment le virus s'est attaqué le plus durement aux puissances les plus affirmées, notamment les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Rassurez-vous, je ne divague pas, il n'y a aucun rapport cause à effet, mais malgré tout, c'est une façon inédite, inattendue, de mise en échec de la puissance. On a l'impression que cette présidence de l'America Great Again, America First, a vraiment été mise à mal par des échecs retentissants de la diplomatie et puis par une sorte de malédiction qui est portée la crise sanitaire.
Bertrand Badi, est-ce que dans un autre ordre d'idées, la puissance chinoise n'a pas aussi été menacée et diminuée avec cette crise du coronavirus ?
Vous avez raison. Et quand je parlais tout à l'heure des 5 membres du Conseil de sécurité, c'est les États-Unis, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est la France et la Grande-Bretagne. Une sorte de 5 malédictions qui sont ainsi distinguées par la crise sanitaire actuelle. Et en ce qui concerne la Chine, je dois dire que je suis un petit peu irrité par ce schématisme qui revient chez beaucoup de vos confrères à ne poser l'avenir des relations internationales qu'en termes du match Pékin-Washington, de la rivalité entre la Chine et les États-Unis, comme si c'était la matrice des événements que nous vivons actuellement. Or, nous voyons, comme vous le dites très justement, que la Chine a été malmenée. Il faut d'abord voir que, partant très probablement de la Chine, ce virus indique des défaillances dans le système sanitaire et je dirais plus généralement dans le développement social de la Chine. Finalement, il semble indiquer que la Chine n'est pas aussi solide dans son développement qu'on aurait pu le croire. On voit aussi, bizarrement, étrangement, une Chine en même temps plaider pour le multilatéralisme et la mondialisation et se montrer extraordinairement pusillanime, c'est le moins qu'on puisse dire, dès qu'il s'agit de faire des progrès au multilatéralisme pour créer une gouvernance sanitaire mondiale. La Chine avec les États-Unis, a bloqué une résolution robuste au Conseil de sécurité concernant le coronavirus, et la Chine refuse, même si elle commence un peu à changer d'avis, toute idée d'enquête internationale. Non pas pour la mettre en accusation, ça aussi c'est absurde, mais en tous les cas pour comprendre ce qui s'est passé, de manière à ce que ça ne se reproduise pas. Ça c'est une précaution qui est tout à fait dans la logique de la mondialisation et de la multilatéralité. On a l'impression finalement que la Chine se méfie de son propre discours qui, depuis quelques années, était apologétique du multilatéralisme. Donc, si on voulait parler en termes footballistiques, on dirait qu'il y a une sorte de match nul, mais peut-être 0-0 entre la Chine et les États-Unis. C'est inquiétant d'un certain point de vue parce que cet échec conjugué semble cristalliser toutes les paralysies. Semble être l'alibi d'un statu quo, moi, qui me fait très peur, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un après de cette crise, il faut reconstruire le monde. Or, si on part du postulat que la Chine et les États-Unis se neutralisent et utilisent à tout propos leur pouvoir de veto, on anticipe sur le fait qu'il n'y a pas de réforme possible, qu'il n'y a pas de progrès possible, du moins dans le moyen terme, pour cette gouvernance globale, ce qui serait un échec épouvantable. On est en train de découvrir ce qu'est la sécurité globale, on est en train de comprendre que ce qui nous menace, ce n'est pas ce que nous appelions autrefois la menace sur la nation, mais la menace sur l'humanité, et nous ne sommes pas ni scientifiquement, ni institutionnellement protégés contre cette menace. Donc, si on ne fait rien, on va vers la catastrophe.
Sept jours en France.
Bertrand Badi, faisons maintenant escale en France, qui est en phase de déconfinement depuis lundi dans les transports en commun, notamment. Reportage, par exemple, dans une gare parisienne lundi. Reportage signé Simon Rosé.
C'est une nouvelle annonce à laquelle il va falloir s'habituer dans les transports en commun. Le masque y est désormais obligatoire et dans l'ensemble, la mesure est très respectée. Mais pour ceux qui n'en auraient pas, des associations en distribuent. Théo Sulpuy en a donné 200 en quelques heures.
On donne les masques avec une feuille d'information pour expliquer comment ça se passe. Il y a 10 masques dans chaque paquet.
Dans les couloirs de la gare, il y a bien plus d'activités que durant le confinement. Beaucoup ont retrouvé le chemin du travail.
Eh oui, c'est la reprise.
Catherine Pilot est employée dans un petit commerce de reprographie. Elle n'était pas très emballée à l'idée de reprendre les transports.
J'appréhendais un petit peu la reprise aujourd'hui, forcément, hein. Les gestes barrières, là, dans le train, c'est pas du tout respecté, quoi. Les gens se collent les uns aux autres. Moi, je suis personne fragile, hein, je suis asthmatique, mon fils aussi. Si j'avais eu le choix, j'aurais prolongé pour rester un peu plus à la maison. Donc, ils ont dit qu'il fallait reprendre, donc on reprend et on verra bien comment ça va se passer.
Pour l'instant, pas trop mal, selon les autorités, d'autant plus que le trafic est encore très limité. Cela n'a pas empêché d'assister à des scènes de métro bondées, notamment sur la ligne 13, la plus utilisée du réseau parisien.
Et depuis le 11 mai, les magasins sont ouverts. À nouveau, reportage lundi, toujours, de Marie Casadebec sur les Champs-Élysées. Dois-je préciser qu'il s'agit de Paris ?
La circulation automobile est clairement plus dense que ces derniers jours, mais les piétons pas beaucoup plus nombreux sur les larges trottoirs de la plus belle avenue du monde. Farouk et sa collègue travaillent dans le quartier. Ils profitaient de leur pause déjeuner pour constater les effets du déconfinement. Ils sont plutôt étonnés. Rien à voir avec un retour à la normale.
C'est vide, parce que d'habitude on se bouscule, tandis que là c'est libre.
Derrière eux, une grande enseigne de vêtements avec écrit sur la vitrine « Heureux de vous revoir ». Mais à l'intérieur, les vendeurs sont plus nombreux que les clients. Farouk et sa collègue s'apprêtent à y rentrer, mais pas pour les mêmes raisons.
Pour passer le temps, on va dire. Puis retrouver le contact avec les gens aussi, peut-être.
Ça m'a manqué. J'ai des petits vêtements, des choses du quotidien pour mes enfants, en fait. Si jamais je peux renouveler leur petite garde-robe, pas cher.
Un jeune couple ressort les mains vides de ce magasin. Cela faisait 2 mois qu'ils n'avaient pas quitté leur banlieue. Ils n'avaient pas pour autant l'intention de dévaliser les boutiques.
Le shopping, c'est un alibi. C'est juste le côté liberté après 2 mois de confinement qui fait plaisir, quoi, c'est tout. Surtout sur cette avenue. Puis après, on va rentrer à la maison parce que c'est vrai que dans les transports, on sent que c'est inquiétant quand même. Je pense que les gens ont encore un peu peur et ils ont peut-être raison d'ailleurs.
C'est donc un mélange de liberté et de crainte qui a envahi la capitale en ce début de semaine.
Bertrand Badi, dans les entreprises, les usines et les ateliers notamment, cette reprise implique des aménagements, des locaux et des changements parfois importants dans les méthodes de travail, comme dans cette entreprise dans la région bordelaise, à Cestas précisément, où s'est rendu David Bachet.
Du mobilier urbain aux pièces automobiles, tout ce qui est fait de métal peut être fabriqué dans cet atelier. Depuis un mois et demi, l'entreprise Sora Garnier tournait au ralenti. 80% d'activité en moins, 8 salariés sur 10 au chômage partiel. Alors pour être au rendez-vous de la reprise, Lionel Garnier, le patron, s'est bien préparé.
On a quand même un atelier relativement vaste où les dispositifs de sécurité par personne peuvent être respectés. On a mis en place, bien sûr, le protocole de gel hydroalcoolique, les masques, les visières, enfin bon, bref. Ça a été bon, in extremis, et juste avant la reprise, on a pu commander les masques. Ça n'a pas été un souci pour nous.
Gilles Chalard, l'un des employés, est heureux de retrouver son fer à souder, mais aussi un peu inquiet.
Bah oui, parce que bon, les journées sont longues à la maison, puis financièrement, on perd quand même.
Qu'est-ce que vous en attendez de cette reprise ?
Ben que ça redémarre le plus vite possible, c'est pour les années à venir, il va quand même y avoir un impact. Là, il n'y a pas de rentrée d'argent, donc il y a des boîtes qui ne pourront pas tenir, je pense.
Et peut-être du coup des commandes en moins à prévoir ?
Ben c'est sûr qu'il y a des commandes, oui, il y en aura moins.
Les questions immédiates sont surtout celles de l'approvisionnement, avec des fournisseurs encore désorganisés, et de l'accès aux chantiers, pour beaucoup, toujours arrêtés.
Rentrée d'un genre particulier, décidément, dans les écoles, cette fois, en tout cas pour une partie des enfants. Reportage dans une école maternelle à Asnières-sur-Seine, dans la région parisienne, signé Abla Jounaïdi.
Le son familier de la sonnerie est là. Pour le reste, tout change. Dans la cour, fini les toboggans. Pour Marie Joson, enseignante et directrice de l'école Sampé d'Asnières-sur-Seine, il a fallu tout repenser.
Alors en fait, ils pourront jouer aux jeux qui sont dessinés par terre. Oui, on a la fusée, on a des marelles et des petits parcours moteurs type saut de haie, ou choses de genre, ou passer sous des haies. On va jouer à des jeux comme 1, 2, 3 soleils. On va remettre en place en fait des jeux classiques de cours de récréation, mais qui sont des jeux solitaires. À la fois collectif, mais on ne touche pas le camarade.
La mairie a fourni le matériel de désinfection, de quoi baliser le sol pour diriger les enfants. Ils circuleront par groupe étanche de 10. Plus question de manipuler jeux et livres en commun. Ainsi en a décidé le ministère dans son protocole sanitaire, drastique, nécessaire, mais qui redéfinit toute l'approche pédagogique.
La chose première que les enfants viennent apprendre en maternelle, c'est de vivre ensemble. Et en fait, ça va être très compliqué à mettre en place, parce que là, on va vraiment les isoler et on va favoriser en fait l'individu seul plutôt que le groupe. Effectivement, on va pouvoir continuer à travailler au niveau des apprentissages scolaires, on n'a pas de souci sur ça. Mais par contre, au niveau du vivre ensemble, on ne va pas du tout exercer la mission qui est la nôtre normalement.
C'est bien une toute nouvelle école qui s'ouvrira cette semaine aux élèves, ceux de grande section, pour commencer.
Bertrand Badi, drôle d'époque, décidément difficile de faire vivre cette notion que l'on cite souvent et que cette femme vient de prononcer, cette notion de vivre ensemble.
Oui, je dois dire à titre personnel que je ne me suis jamais senti si proche d'Aristote quand il disait que l'homme est un animal social. C'est-à-dire, nous vivons une expérience inédite, le confinement qui, pour la première fois, même pour ceux de ma génération qui sont plus très jeunes, c'est la première fois que nous avons cette expérience de l'isolement. Et ce qui me fait peur, on y faisait référence tout à l'heure, c'est que on est en train de réfléchir aux moyens de banaliser cet isolement, c'est-à-dire la communication par le biais des technologies nouvelles, le télétravail en particulier, sont des éléments qui peuvent effectivement à terme casser la conscience collective. Parce que même si on est en interaction avec les autres, lorsque l'on échange par voie numérique, il reste que tout ce qui fait la force de l'autre, son regard, sa posture, sa conviction, son enthousiasme, sa peur, tout ça est annulé par le jeu numérique. Et à terme, cela peut déboucher sur l'invention d'un ordre social extraordinairement dangereux. Vous savez, moi je suis humblement un turkémien militant, j'ai toujours été fasciné par l'œuvre du maître, et le maître de la sociologie française nous a enseigné qu'à la base de tout, il y a le lien social, il y a la solidarité. Et cette solidarité, nous en avons besoin plus que jamais, puisque ce qui nous fait face, ce n'est pas l'autre ennemi, mais c'est la menace collective qui pèse sur l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire que nous n'avons jamais été en situation de besoin de solidarité aussi fort. Si, pour se protéger, et j'en comprends très bien la logique, on continue à éduquer l'être humain dans l'isolement, à terme, c'est la notion même de solidarité qui risque de ne plus être comprise. Et alors là, le monde s'effondrera pour de bon. Donc il faut faire très très attention à tout cela. De même qu'il faut faire attention à quantité de virus d'une nature voisine qui circule, notamment ces fièvres nationalistes qui dérivent très vite en égoïsme, mais aussi en racisme, en xénophobie, en identitarisme. Et on voit bien la tentation de simplifier le problème complexe que nous vivons actuellement en politisant le virus, en le rattachant à un ennemi, à un complot, en appelant au retour des frontières, alors qu'au contraire, on a plus que jamais besoin de coopération internationale. C'est pas le cloisonnement qui va résoudre le problème, c'est le décloisonnement. Ce n'est pas l'addition de 193 politiques sanitaires nationales qui permettra de résoudre le problème. C'est au contraire la mise en commun des ressources et des moyens de chacun pour permettre à cette humanité de survivre dans son ensemble. Nous n'avons plus d'ennemis face au virus. Nous avons, chacun d'entre nous, 7 milliards et demi d'alliés. Donc j'ai peur, j'ai vraiment peur de cette espèce de traduction nationaliste de certaines pulsions, avantagée notamment par ce défaut d'imagination institutionnelle, ce défaut de réforme dans l'espace international dont nous avons tant besoin. Le problème, il est là. Il faut redonner une conscience collective, encore une formule durkheimienne, à l'humanité. Sinon, on va évidemment vers la catastrophe.
Bertrand Badie, les 193 États dont vous parliez, ce sont ceux qui sont membres des Nations Unies, je le précise. Alors dans l'actualité française, il y a aussi cette phrase prononcée hier par Emmanuel Macron lors d'une visite à la Pitié-Salpêtrière, qui est un des hôpitaux parisiens. On a sans doute fait une erreur de stratégie pour l'hôpital, a-t-il dit. Et c'est aussi, et ça, cette actualité, cet événement doit vous intéresser, Bertrand Badie, c'est aussi la polémique autour de Sanofi qui aurait dit, dont les dirigeants ont dit qu'ils privilégieraient les États-Unis lors de la sortie d'un vaccin, car les États-Unis ont aidé ce grand laboratoire pharmaceutique français dans ses recherches sur un vaccin contre le Covid-19. Que vous inspire cette polémique et cette notion aussi de bien public mondial, puisqu'on dit que ce vaccin devrait être au contraire un bien public mondial?
Alors vous avez raison. J'ai frissonné lorsque j'ai entendu cette information, parce que on voit se recomposer cette politisation virale, cette nationalisation virale à travers, ça a été d'abord la guerre des masques, puis la guerre des tests, puis maintenant la guerre des vaccins, ce qui est allé totalement à contresens de ces besoins que vous exprimez par la formule exacte de biens mondiaux. Vous comprenez, nous sommes plus exactement les héritiers d'une mémoire multiséculaire qui n'est capable de penser la sécurité qu'en termes national. C'est-à-dire la sécurité, c'est la menace d'invasion de notre territoire national. C'est ce qui doit nous conduire à défendre la ligne bleue des Vosges. Et donc, nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui, le vrai risque, ce n'est pas l'arrivée des chars russes à Paris, ce n'est pas Strasbourg qui est à deux étapes du Tour de France, comme le disait le général de Gaulle, deux étapes des chars soviétiques qui séparaient ceci de la capitale alsacienne. Le vrai danger, il n'est pas un danger d'invasion d'un territoire national, il est un danger qui naît de la mécanique des corps, de la mécanique du monde, et qui se traduit par les périls environnementaux que nous connaissons et par les périls sanitaires dans lesquels nous sommes en ce moment véritablement engloutis. Donc, il faut tout repenser. La notion de sécurité doit être repensée en fonction de cette globalité et en fonction de cette cible qui n'est plus une nation, mais l'humanité. Et on ne défend pas l'humanité comme on défendait autrefois une nation. Il faut faire absolument cette conversion de notre politique de sécurité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'enjeu sécuritaire, c'est pas l'arme atomique, c'est véritablement construire une gouvernance sanitaire globale, c'est-à-dire gérer ces biens communs de l'humanité. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, nous avait alerté là-dessus il y a maintenant 26 ans, en publiant un rapport en 1994 sur la sécurité humaine qui disait exactement cela. Qui parle de sécurité humaine aujourd'hui? C'est le seul véritable enjeu auquel nous sommes confrontés. Qui en parle? Qui emploie ce terme? Et ça, c'est un désastre, je dirais, de 30 ans de gouvernement de notre monde. Et ils sont pratiquement tous coupables. Donc il faut redresser. Mais la grande question qui nous intéresse tous, c'est qui est capable de faire cette œuvre de redressement? Nous ne sommes plus à l'échelle d'une nation, nous sommes à l'échelle du monde. Qui aura assez de force pour imposer cette réforme à l'ensemble de la planète? C'est ça la vraie et seule question. Donc il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire une pression sociale, une pression citoyenne, une pression de l'opinion publique pour réclamer ce nouvel ordre. Et il faut espérer qu'on trouvera un Roosevelt ou un Mandela qui sera capable de porter ce bouleversement mondial. Sinon, nous n'avons aucune chance de survie.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Continuez à nous écrire sur la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Également, un salut aujourd'hui à Ferdinand au Tchad. Il critique l'hostilité, selon lui, de l'OMS aux remèdes africains contre le virus. Il pense bien sûr à l'Artemisia. Bonjour à Issa à Conakry, qui se demande notamment pourquoi le Covid-19 a fait à ce jour plus de victimes en Europe qu'en Afrique, écrit-il. Bonjour à Mansour à Dakar. Je salue également Félix Junior à Chikapa en République démocratique du Congo. Bonjour à Josué à Bamako et à Mamadou Madiou et Issa à Conakry. Enfin à Dominique qui nous écoute à Bamako.
Sept jours en Afrique.
Partons effectivement pour l'Afrique, Bertrand Badi, au Sénégal, où le déconfinement a été allégé, le couvre-feu à Dakar notamment. Cette décision de Macky Sall a été diversement appréciée dans la population. Correspondance de Charlotte Hydrak.
Tout en lavant ses salades, cette vendeuse de légumes salue les annonces du président Macky Sall.
On est là, coincé. Si on ne va pas au marché ou bien si on ne va pas au travail, nos enfants ne mangent pas. C'est bonne chose que les marchés puissent ouvrir, que les gens puissent faire leur activité. Parce qu'on est fatigué, là, on en est marre.
Je pense qu'il a bien réagi, c'est bon. Les commerces, les réouvertures, les lieux de culte, tout ça, c'est bien. Ça permet aux gens de diminuer le stress, quoi. On doit vivre avec.
Soulagement aussi pour ce fidèle musulman qui espère pouvoir retourner prier à la mosquée rapidement.
Avec le mois de Ramadan, il faut qu'on parle à la mosquée. On va être distant, je vais être prudent.
Mais pour d'autres Dakarois, il est trop tôt pour assouplir les restrictions. Ils disent craindre un retour de bâton.
C'est très inquiétant, je dis. Le discours reste dans l'ambiguïté. Vu l'ampleur de la pandémie, pour moi, il ne fallait pas qu'il le fasse dans la précipitation. Ouais, je ne sais pas ce qui l'a poussé à prendre dans la hâte cette décision, mais bon, qu'on fasse à nouveau des efforts.
C'est vraiment risqué parce que la maladie ne fait que croître. Moi, j'aurais préféré qu'on allait vraiment prendre des mesures de sécurité. Déjà, les lieux de culte, je ne pense pas que je m'y rendrai dès demain. Pour le marché, j'y vais plus trop. Je suis très inquiet.
Le ministre de la Santé a prévenu, cet allègement ne doit pas conduire à un relâchement. La bataille doit être plus soutenue, dit-il, surtout dans la capitale.
Au Mali, c'est le confinement qui pousse la population à manifester, comme à Kay, par exemple, correspondant cette fois de Coralie Pierret.
Depuis le début de la semaine, la ville de Kay est secouée par des manifestations. Mercredi, les barricades se sont reformées et la préfecture a été brûlée, confirme le préfet Bernard Koulibaly. Parallèlement, des femmes ont aussi formé leur propre cortège, explique Djenéba Lobo-Traoré, une manifestante.
On a montré notre mécontentement. Nos enfants vont au front, ils ne retournent pas. Même nos enfants ne vont plus à l'école. Ça fait 2 ans maintenant qu'il n'y a pas d'école au Mali. C'est la mauvaise gouvernance. Tout revient à ça. Depuis 7 ans, nous n'avons rien eu. Il n'y a rien.
Déjà la semaine dernière, la ville était en proie à la contestation contre le couvre-feu instauré pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Même si le couvre-feu a été levé, les conséquences demeurent, indique Mamadou Koulibaly, le président de la société civile de Kaï.
La plupart des jeunes sont dans l'économie informelle. Avec le couvre-feu, leurs activités étaient plus ou moins arrêtées. Ils n'arrivaient pas à gagner leur pain quotidien. Ça, c'est extrêmement important. Ils réclament les meilleures conditions de vie et de travail. Donc aujourd'hui, les jeunes, ils sont dans cette dynamique.
Ce mercredi, le ministre de la Sécurité, Salif Traoré, avait fait le déplacement à Kaï pour tenter d'apaiser les tensions.
Bertrand Badi, cette semaine est décidément marquée par la reprise de l'activité en Afrique, par exemple. C'est aussi le cas au Kenya, notamment, comme l'a constaté notre correspondant Sébastien Nemeth dans un bidonville de Nairobi.
Le marché de Kawangware ne grouille plus de monde comme avant, mais depuis quelques jours, il reprend peu à peu vie. Une situation paradoxale alors que le nombre de malades ne cesse d'augmenter dans le bidonville. Collins Nawanda, vendeur de sacs, avait fermé pendant plusieurs jours, mais il a dû rouvrir sa boutique. Les gens ne peuvent pas survivre s'ils restent chez eux, dit-il. Même si vous ne travaillez plus, les factures continuent d'arriver. Il a bien conscience du risque d'infection alors que l'épidémie se répand, mais il doit bien nourrir sa famille. Pour lui, mourir de faim serait la pire des choses, pire que d'être tué par le Covid-19. Kawangware est l'un des plus grands bidonvilles du pays. À l'arrivée du Covid-19, le quartier s'est éteint, provisoirement, car après plusieurs semaines, Christopher Njoro, céréalier, a noté un relâchement. Au début, dit-il, les restrictions étaient respectées, mais maintenant les clients reviennent. Nairobi s'ouvre malgré le confinement. Ceux qui avaient des économies n'ont plus rien. Ils doivent bien se nourrir et reprendre le travail, dit-il. Les commerçants sont pris au piège, entre rester à la maison et s'appauvrir ou venir travailler au risque d'être infecté. Rémi Ngougui est un jeune boucher de 20 ans. Il supplie l'État d'intervenir. Il demande au gouvernement des masques, des gants, du savon, des produits devenus trop chers alors que son chiffre d'affaires a été divisé par 2. Et même si l'activité frémit légèrement, dans une semaine, il fermera définitivement, annonce-t-il.
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Bertrand Badi. Bertrand Badi, nous avons consacré dimanche dernier un numéro d'idées à l'Afrique dans cette crise, dans cette pandémie. Et parmi les sujets de conversation que nous avions avec les invités, ils étaient 4, il y avait celui-ci, cette espèce de condescendance que l'OMS, par exemple, avait eue à l'égard de l'Afrique en disant « Afrique, réveille-toi », ou cette condescendance générale de l'Occident vis-à-vis de l'Afrique. Et je reprends la remarque d'un de nos auditeurs, Issa, qui nous écoute à Conakry, qui note, lui, qu'il y a moins, à ce jour, de victimes en Afrique qu'en Europe ou aux États-Unis.
Oui, alors cette remarque, elle est très forte. Hein. Tout à l'heure, je disais, mais ce virus frappe surtout les puissants. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Peut-être qu'un jour, on comprendra cette mystérieuse corrélation. Il reste que, bien heureusement, fort heureusement, l'Afrique est beaucoup plus épargnée que l'Europe et l'Amérique du Nord et que la Chine elle-même, c'est à remarquer. Mais je dirais, n'accablons pas l'OMS qui est déjà suffisamment accablée comme ça et qui fait ce qu'elle peut. L'OMS en Afrique n'a pas démérité, il faut quand même ne pas l'oublier dans les campagnes de vaccination, l'éradication de la variole, les campagnes d'assainissement de l'eau. L'OMS a joué un rôle très positif. Je voudrais peut-être aller plus haut, c'est-à-dire il y a eu une double injustice générale, globale, mondiale sur cette affaire à propos de l'Afrique. D'abord, moi j'ai très mal vécu, en tant que Cami de l'Afrique et m'y rendant assez régulièrement, j'ai très mal vécu cette façon qu'en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, on a eu de se plaindre d'être les victimes d'une attaque virale, de ce qui est devenu maintenant une pandémie, oubliant que l'Afrique à souffrir d'épidémies depuis des décennies et des décennies. Le cas d'Ebola, par exemple, est tout à fait remarquable. Qui s'est intéressé à Ebola en Europe? Le Conseil de sécurité a voté deux résolutions et de manière poussive sur Ebola, et surtout parce que ça menaçait, ça et là, les contingents de casques bleus. Qui a en tête que le paludisme, cette maladie parasitaire, fait 450 000 morts par an. Nous en sommes à 290 000 cette année. Le paludisme, c'est 450 000 morts par an. Qui songe que le paludisme a atteint 220 millions d'êtres humains, 220 millions d'êtres humains qui sont en paludé, et la plupart étant en Afrique, avec les drames que cela représente pour les enfants atteints de paludisme, victimes de malformations, incapables de pouvoir suivre un programme de scolarisation. Nos amis africains sont dans cette situation, souffrant en silence, ne serait-ce que parce que personne ne les écoute, et nous avons l'impression que tout d'un coup le ciel est tombé sur notre tête. Ça, c'est une première injustice. La deuxième injustice, c'est effectivement une certaine arrogance par le regard que l'on porte sur la manière dont l'Afrique se défend actuellement. Alors, ce n'est pas seulement une question de remèdes, et de remèdes qui sont effectivement moqués. Moi, je n'ai pas la compétence pour juger si ces remèdes doivent être pris au sérieux comme moyen de lutter contre cette maladie ou pas. Ce n'est pas mon problème. En revanche, je vois qu'il y a en Afrique, peut-être lié à cette expérience ancienne de l'épidémie, des comportements sociaux que nous n'avons pas appris en Europe parce que nous ignorions ce danger. Et peut-être est-ce là une voie de recherche, c'est-à-dire la manière de se défendre, de se protéger, de se réorganiser de manière plus humaine. Je disais tout à l'heure que notre confinement est une façon assez humaine et asociale de s'organiser. Il y a en Afrique des moyens plus humains, plus sociaux de se protéger et qui semblent fonctionner. J'ose espérer que cela va durer. Eh bien, prenons tout cela en compte. Vous savez, quand vous avez fait l'amitié de citer mon livre « Quand le Sud réinvente le monde », eh bien, c'est plus vrai que jamais. C'est-à-dire que le Sud a une posture face à ce fléau que nous n'avons pas. Nous ne réagissons qu'au jour le jour par des techniques palliatives, déconfinement, France verte, France rouge, 100 km, 1 km. Il faut savoir aller plus en profondeur, et là je pense qu'effectivement l'Afrique a beaucoup à nous apprendre. Eh bien, allons-y, allons écouter l'Afrique, et je pense qu'elle aura son mot à dire, j'en suis même convaincu, dans la reconstruction post-crise.
Merci Bertrand Badie. J'ajoute que vous avez également écrit « L'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination » chez Odile Jacob l'année dernière en 2019. Merci Bertrand Badie de nous avoir accompagnés ce matin.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée par Steven Hesley. Je vous donne rendez-vous demain pour le magazine Idées dans une formule spéciale déconfinement progressif. Je recevrai deux invités, deux philosophes. Corinne Pelluchon, philosophe, professeure de philosophie, qui étudie depuis une dizaine d'années ce que l'on appelle l'éthique de la considération, et elle élabore une philosophie du respect de l'homme, de l'animal et de l'environnement. Je recevrai également Pierre Charbonnier, qui lui prône une histoire environnementale des idées. Il nous expliquera ce que cela signifie demain dimanche, Idée, 17h10, heure de Paris. Bonne fin ou bon début de semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI.